hemos recibido más humillación, discriminación y explotación. Nosotras como mujeres indígenas en todas partes son violadas nuestros derechos solo por ser indígena, por ser mujer y por ser analfabetas. En estas condiciones de vida en que vivimos las mujeres, ya no lo podemos permitir. Por eso nos decidimos arriesgar nuestras vidas, armadas o no de fusiles, pero todas armadas de verdad y de razón. Y así nos fuimos para dar a conocer las causas justas de nuestra lucha. A hacer huir nuestro grito del ya basta. El grito del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Alors, qu'est-ce que nous avons écouté ici? Suzanne, d'abord, si tu pourrais aussi nous traduire, si tu pouvais nous traduire quelques-uns des mots que nous a dit cette femme qui, je suppose, faisait une déclaration lors à Oventik.
Voilà, donc elle s'est exprimée lors d'une des fêtes à Oventik. Donc il y a eu 4 soirées, donc c'était lors de l'une des soirées. Et elle a dit brièvement que, comme c'était la célébration donc de l'anniversaire de l'insurrection du 1er janvier 1994. Elle a expliqué pourquoi les femmes s'étaient décidées donc à joindre le mouvement et pourquoi elles s'étaient décidées à participer à ce mouvement quand ils ont pris les villes principales du pays. Alors elle dit que c'est dans ces villes que les femmes ont reçu le plus d'humiliation, qu'elles sont discriminées, exploitées, qu'elles ont été violées simplement pour le fait d'être indigènes, femmes et analphabètes. Donc, elles disent que c'est une situation qu'elles ne pouvaient plus permettre et qu'elles ont décidé de risquer leur vie, de prendre les armes pour défendre la cause juste et pour crier « Ya basta », c'est-à-dire « Ça suffit », qui est le cri de guerre de les EDLN. Voilà.
La situation des femmes au Chiapas est de toute façon, disons que c'est vraiment une situation classique, machiste, très grave, avec oppression des femmes. Je veux dire, les choses n'ont pas changé comme ça par miracle parce que l'armée zapatiste est intervenue dans la région.
Alors, la situation des femmes au Mexique est très dure. La situation des femmes indigènes l'est encore plus, puisqu'elles cumulent effectivement le fait d'être femmes indigènes et souvent analphabètes pauvres. C'est vrai que les femmes font partie du mouvement de l'armée zapatiste, qu'il y a des femmes commandantes et que c'est des femmes qui ont une grande renommée, une grande force. Certaines, comme Ramona, comme Ana Maria, sont très connues, très respectées. Et elles ont imposé à l'intérieur de l'armée zapatiste, entre autres, la loi sèche, c'est-à-dire l'interdiction de l'alcool, parce que c'est vrai que l'alcoolisme a toujours été pointé comme une des causes de violence contre les femmes. Les hommes boivent. Et puis après, ils viennent tabasser leurs femmes. D'ailleurs, à Oventik, ce qui était extraordinaire, c'est qu'il n'y avait pas une goutte d'alcool. Et on a dû signer pour entrer qu'on n'amènerait ni alcool, ni drogue, ni armes. Donc, c'était une fête de 4 jours sans une goutte d'alcool, ce qui est assez spécial partout, mais peut-être au Mexique encore plus. Alors cet événement d'Oventik, c'était effectivement un mélange de fêtes. Il y avait des artistes qui étaient venus de Mexico, de discours, comme on a pu l'entendre, d'actes de petits théâtres d'éducation populaire. Par exemple, on a pu voir comment il fallait soigner le choléra ou d'autres types de petits théâtres vraiment d'éducation populaire. La plupart pas en espagnol, mais en tzotzil. Tout cela joué par des acteurs, soit venus de Mexico, soit sur place, mais qui tous étaient masqués, ce qui là aussi donnait une impression extraordinaire. Et il y avait beaucoup d'Indiens qui sont venus faire des danses, leurs danses sacrées, parce que c'est aussi une occasion de promouvoir la culture indigène. Je veux dire, c'est pas vrai, nous ne sommes pas illettrés, analphabètes, nous sommes peut-être analphabètes, mais nous avons une culture et cette culture, nous voulons la faire partager. Donc c'est aussi une occasion de montrer cette culture à travers des danses qui en général on voit jamais.
Et puis, c'était l'occasion aussi quand même donc de parler politique.
Et c'était l'occasion de parler politique. C'était aussi l'occasion de danser, ça il faut quand même le dire.
Et vous avez dansé ?
On a dansé. Et ce qui était rigolo, c'est qu'il y avait une quantité de boue absolument extraordinaire. On pataugeait dans 15 cm de boue, ce qui fait que, par exemple, quand on dansait, on ne pouvait absolument pas bouger les pieds. On avait les pieds collés dans la boue et tout le monde était là à danser, la plupart masqués aussi, mais sans bouger jamais les pieds parce que c'était planté dans la boue.
Comme vous étiez les seuls non masqués, vous serez connus dans tout le Chiapas pour toujours.
Alors, disons, les événements politiques, c'était effectivement le soir. Les commandantes, tout à coup, apparaissaient. Ils étaient complètement noyés dans la foule. Et puis, tout à coup, on voyait des gens qui se mettaient debout sur la scène et qui faisaient une série de discours. Le discours le plus important a eu lieu le 1er janvier. C'est ce qu'on appelle la quatrième déclaration de la Selva Lacandon, qui a été répétée dans les quatre endroits de fête par quatre commandantes qui ont lu le discours. À Oventic, c'était Anna Maria et ce discours est donc la plateforme politique de Les Aides d'Hélène.
Je vous en fais un bref résumé parce que c'est un document assez long. Donc, la déclaration comporte toute une partie un peu historique qui rappelle qu'une année auparavant, Les Aides d'Hélène avaient appelé à former un mouvement pour la libération nationale. Mais peu de temps après, il y avait eu la rupture en fait, du dialogue. Donc les négociations entre le gouvernement et les Aides d'Hélène se sont interrompues en février 1995 parce que l'armée est intervenue de façon extrêmement violente dans les communautés zapatistes et les a obligés à se réfugier dans la montagne et qu'ils avaient détruit justement le premier Aguascalientes. Pendant ce temps, le gouvernement faisait des pactes secrets avec les puissances extérieures en vendant la patrie. Suite à ces événements, les zapatistes ont organisé la Consulta por la Paz, la grande consultation populaire. Et ils s'y réfèrent en disant il y a eu 1 300 000 dialogues, c'est-à-dire pour eux, chaque personne qui a voté, ça a été un petit dialogue. Hein. Donc ils ne disent pas il y a eu 1 300 000 votes, ils disent il y a eu 1 300 000 dialogues. Et du résultat de cette consultation sont sorties trois initiatives. Une, c'est une rencontre intercontinentale contre le néolibéralisme qui devrait avoir lieu au cours de l'année 96. Quand on en saura plus, on vous en reparlera. La deuxième, c'est des comités civils de dialogue qui devraient donc avoir lieu dans tout le pays, qui ont commencé à se créer. Et puis, la troisième, c'était la construction de 5 Aguascalientes. C'est les 4 lieux dont nous avons parlé. Et le troisième, c'est le cœur de tous les femmes et les hommes honnêtes du monde. Voilà. Alors, wow. Nous sommes dans le 5e Aguascalientes.
Mais c'est des grands poètes, cette armée de libération zapatiste. On le retrouvera bien sûr tout à l'heure encore, mais vraiment, il y a une façon de s'exprimer où on utilise les mots pour dire des choses très fortes. Hein. Ce n'est pas la langue de bois auquel on était trop souvent habitués dans certains discours politiques ailleurs.
Tout à fait.
Il y a vraiment un changement, il y a aussi une révolution des mots, là, dans la façon d'échanger et de parler.
Voilà. Et puis dans la déclaration, le texte oppose deux projets de nation. Il dit il y a deux projets de nation. Il y en a une qui consiste à détruire totalement la nation, c'est le projet du gouvernement et des classes possédantes. Et l'autre projet, c'est un projet de transition à la démocratie avec un mouvement ample d'opposition. C'est le projet auquel s'identifie le mouvement zapatiste, tout en disant qu'ils n'en sont absolument pas ni l'avant-garde, ni le fer de lance. Ils veulent en être une des parties. Hein. Ils ne prétendent pas être l'avant-garde, ni donner tous les contenus ou tous les rythmes de ce mouvement, mais ils veulent s'y joindre. Et ils disent, il y a une guerre beaucoup plus grande que la guerre zapatiste qui se livre dans ce pays. Et c'est vrai, quand on lit les journaux, on s'aperçoit qu'il y a un nombre de conflits armés, non armés, de prise de terre et d'occupation, etc. C'est effectivement un pays qu'on pourrait considérer comme dans un espèce d'état de guerre. Donc il dit, notre guerre à nous, c'est une petite guerre qui est partie d'une guerre beaucoup plus grande. Alors suite à toute cette analyse qu'ils font de la situation, ils décident de créer ce qu'ils appellent le Front Zapatiste de Libération Nationale, qui est une organisation civile, pacifique, indépendante, démocratique, mexicaine et nationale, qui est partie du mouvement pour la libération nationale, qui ne sera pas un parti et qui ne va jamais présenter quiconque à une élection. Donc cette organisation s'adresse à toutes les personnes qui sont d'accord de faire de la politique de cette façon-là. Elle vise à organiser les revendications de la société pour que celui qui commande, commande en obéissant. Para que el que manda, manda obedeciendo. C'est-à-dire que c'est une redéfinition de la démocratie. Ils disent après, la démocratie, ce n'est pas l'alternance du pouvoir, c'est le pouvoir par le peuple. Bon, chose qu'on était tous censés savoir, mais disons qu'on oublie un petit peu facilement. Donc, eux, ce qu'ils réclament, c'est à partir de leur programme historique des 13 points, qui est le toit, la terre, enfin les 13 revendications de base du mouvement zapatiste. Ils réclament la démocratie dans tous les domaines, et pas seulement dans le domaine électoral, ce qui devrait aboutir à une nouvelle constitution. Et voilà, donc ils lancent ce mouvement tout en précisant bien que les EDLN, donc l'armée, ne disparaît pas, ils gardent leur organisation armée, mais qu'ils vont mettre leur priorité à l'activité politique et non plus à la militaire. Donc ça, c'est leur projet. Voilà. Donc ça, c'est la déclaration du 1er janvier 1996 qui a soulevé un certain nombre de réactions dans le pays, de la part évidemment des politiques institutionnelles qui disent « mais enfin c'est quoi cette manière, c'est pas sérieux, c'est des irresponsables, comment est-ce qu'on peut lancer un mouvement politique en refusant d'emblée de participer à des élections ?» Disons que ça a soulevé toutes sortes d'objections, mais je pense que ça a aussi soulevé pas mal d'intérêt de la part justement de tous les gens qui ne peuvent plus se reconnaître dans aucun parti. Parce que déjà ici, ce n'est pas très facile de s'identifier à un parti, mais disons, ça reste encore une activité respectable. Au Mexique, je crois que c'est devenu quelque chose de tellement pourri qu'effectivement, c'est plus guère possible de faire partie d'un parti. Donc, il risque d'avoir un écho assez important. Ça, c'est l'année 96 qui nous le dira.
Donc, un objectif de lutte que se fixent aussi les gens du pays et qui est un discours, un programme qui va être discuté largement dans le pays, entre autres, par exemple, à la rencontre dont tu parlais, je suppose, donc.
Alors ça, je pense que cette rencontre fera partie, effectivement, de ce mouvement. Mais une des particularités, justement, de les EDLN, c'est qu'eux, ils disent toujours c'est pas nous qui allons donner tous les contenus. Nous savons à quoi nous nous opposons, nous n'avons pas de projet alternatif à proposer, nous savons que c'est notre faiblesse. Ce projet, il doit être construit par tous. Ils ne prétendent pas avoir un programme de gouvernement, un programme complet, la réponse à toutes les solutions. Ils disent, nous, on sait en tout cas ce qu'on ne veut pas. Donc, effectivement, ils suscitent sans arrêt ces forums auxquels sont invités ce qu'ils appellent des assesseurs. Donc, les intellectuels de gauche les plus brillants du Mexique sont toujours invités à participer à ces discussions. Bon, peut-être que je vais m'arrêter là, parce que là, on aborde déjà le deuxième thème de la soirée.
Mais disons juste que, pour préciser encore une dernière chose, c'est qu'il y a leur programme, il y a leur lutte qu'ils ont l'intention de mener avec la base. Et puis, il y a en même temps ce lien avec l'institution qu'ils mènent, puisqu'ils étaient en pleine discussion autour de soi-disant déclaration de paix, enfin de négociation de paix avec le gouvernement. Il ne faut pas voir que ce n'est pas seulement comme ça, de déclaration en l'air de principe, mais en même temps, on travaille sur le terrain pour que ça avance, y compris avec les autorités du pays.
Oui, c'est la force des zapatistes. C'est pour ça aussi qu'on a pu dire d'eux que c'était une révolution de basse intensité, c'est-à-dire qu'ils ont porté les armes, ils les ont peu utilisées, ils les ont toujours, et ils ont forcé au dialogue, chose que le gouvernement n'a jamais fait, parce que des révoltes d'indigènes, il y en a eu toujours au Mexique, il y en a encore dans la moitié des régions au Mexique. Il y a des groupes d'indigènes plus ou moins armés qui se battent aussi dans la forêt et qui ont toujours été ignorés. Mais les zapatistes, eux, ont provoqué cet événement qui a forcé le gouvernement à la négociation. Et donc, ça fait plus d'une année qu'il y a des tables de négociation à San Andrés de Laranzar, qui est tout près de San Cristobal, où il y a eu une troisième table de Mesa, comme ils appellent, des séries de discussions commençaient le 10 janvier et vient de se terminer. Et donc, tous ces événements qui ont précédé cette date du 10 ont servi aussi à alimenter, à apporter des éléments pour que les zapatistes les négocient avec le gouvernement. Thank you.
Là, c'était une fanfare qui un intermède entre les discours politiques et puis la fiesta, les fanfares qui doivent être très présentes dans tous ces villages, non?
Oui, c'était donc à Oventic, toujours une des fanfares qui a joué. C'était très bizarre d'ailleurs de jouer du saxophone avec le foulard, mais bon, il s'arrangeait.
Alors, vous avez ensuite, vous êtes déplacé parce que vous êtes retourné à Saint-Christobal et là, vous avez pu suivre un autre événement d'importance.
Alors, effectivement, à Saint-Christobal a débuté le 3 janvier, du 3 au 8, un événement assez extraordinaire pour le Mexique qui était un forum indigène appelé par les apatistes qui ont donc organisé cette rencontre des indigènes de tout le Mexique. Ce forum a été précédé par une quinzaine de forums locaux où dans les différentes parties du Mexique, les indigènes se sont réunis pour discuter des propositions zapatistes sur les questions de l'autonomie et des droits indigènes, questions qui ensuite vont aller être discutées avec le gouvernement. Donc cette réunion de Saint-Christobal devait réunir un peu les travaux de ces forums locaux et continuer à travailler pour ensuite proposer un texte. Et c'est sur la base de ce texte que les apatistes allaient discuter avec le gouvernement. Donc une méthodologie très démocratique où les apatistes discutent sur la base d'un texte qui en fait a été mis au point par tous les indigènes de tout le Mexique, enfin par les mouvements indigènes dans tout le Mexique. Donc à la fois il y a la négociation, mais il y a à la fois la construction d'un mouvement, la politisation, la sensibilisation et la prise en compte des besoins réels des indigènes et de ce qui leur est arrivé. Parce qu'une partie de ce forum était basée sur des histoires où les gens dénonçaient les violences auxquelles ils avaient été soumis. Alors, ce forum s'est tenu à Saint-Christobal. Donc, je vous le rappelle, et cette capitale assez réactionnaire, sous la protection de la police et sous l'égide à la fois donc de l'évêque, Samuel Ruiz, qui est l'évêque des Indiens, qui est à Saint-Christobal, et de son organisation, la CONAI, et aussi sous l'égide des parlementaires qui sont réunis dans la commission de pacification, la COCOPA. Donc il y avait à la fois les apatistes, la CONAI et la COCOPA qui invitaient à ce forum indigène. 400 personnes sont venues, dont en tout cas 200-250 indigènes de tout le Mexique. Je ne peux pas vous dire tous les peuples parce que je n'arrivais pas à suivre la liste des Huichol, Mestiz, Mix, de Oaxaca, de la Basse-Californie et même d'Indiens d'ailleurs, d'indigènes nord-américains qui sont venus, des Sioux, des Mapuches et d'Argentine. Enfin, ça a vraiment regroupé une palette des peuples indigènes, en tout cas d'Amérique centrale.
Ce qui fait leur compréhension commune, c'est malgré tout l'espagnol?
Oui, il y avait quelques traductions, je pense, en dessous de je pense, parce que je n'ai pas pu reconnaître cette langue. Mais sinon, les gens parlent espagnol, souvent en demandant qu'on parle très lentement, parce qu'effectivement, ce n'est pas une langue qui leur est très familière. Donc, il y a eu 5 jours de discussion, de débat. C'était comme la ditacho. Donc, pour vous donner une image, il y avait dans la salle, il y avait donc l'évêque, bon, habillé en civil bien sûr, avec les autres gens de la CONAI. Il y avait 24 commandantes, tous avec le passe-montagne, dont 6 femmes. Et puis après, il y avait les parlementaires. Dehors, il y avait tout cet endroit était protégé par la police. Qui fallait aussi montrer son accréditation, par un cordon de civils qui étaient vraiment des pauvres Indiens, la plupart pieds nus, qui tenaient une corde, tremblant de froid parce qu'en plus il fait très froid, sous les yeux d'une police qui pourrait les tuer le jour d'après. Et puis un dernier cordon de la Croix-Rouge qui était les protecteurs des commandantes, puisque c'est avec des voitures de la Croix-Rouge que les commandantes arrivaient sur place. Donc ils étaient très protégés. Ensuite, ils circulaient toujours protégés par un cordon de civils aussi. Et le forum a été ouvert par le commandante Tacho, qui est un des seconds de Marcos, avec un très joli discours dont Suzanne va nous donner quelques éléments.
Alors dans son discours, Tacho, il commence par dire que nous sommes... ici pour prendre la parole sans demander la permission. Parce que pour dire la vérité, il n'y a pas besoin de demander la permission. Et puis, il développe sur le thème qu'on ne demande pas la permission parce qu'on ne nous a pas demandé la permission pour nous tuer. Donc, nous ne demanderons pas la permission maintenant pour parler. Et nous ne demandons pas non plus pardon al Señor Gobierno. Et le Señor Gobierno, c'est le monsieur gouvernement, ce n'est pas vraiment le président, hein, c'est le pouvoir. Et après avoir développé ce thème de la permission, il explique justement le rôle des assesseurs, donc de ces personnes qui sont des intellectuels, des artistes, la plupart mexicains, qui ont accepté tous, sans aucune rémunération, de participer à ces forums, de beaucoup travailler pour présenter des documents de préparation. Il y a tout un travail aussi de formation interne, si on veut, des leaders indigènes qui sont accompagnés par les assesseurs. Donc, ils parlent des assesseurs et ils disent que c'est vraiment pour eux très, très important. Ce qui les amène après au thème du racisme. C'est-à-dire qu'eux, ils disent, nous ne pouvons pas combattre le racisme que pratique le pouvoir avec un miroir qui représenterait le même racisme, donc qui représenterait la même intolérance et le même manque de raison contre les blancs et les métis. Donc ils se refusent absolument à entrer dans la problématique de la race,
l'apartheid indigène.
D'un apartheid indigène, voilà. Et donc ils se réclament d'un monde où tout le monde aurait sa... Tout le monde aurait sa place. Et il termine en disant « Bienvenue à la fête de la parole, la fête de l'inclusion, de la tolérance et de la dignité humaine. »
Están aquí presentes hermanos de muchos pueblos indios que forman parte de una gran nación mexicana. A través de sus representantes y delegados, los pueblos indígenas de México han venido a tomar la palabra por su propia voz, sin pedir permiso, porque para decir la verdad no se pide permiso. El Supremo Gobierno dice que hemos cometido pecado mortal, porque construimos centros culturales sin pedirle permiso. El señor gobierno nos mandó decir que habíamos cometido pecado mortal y que los Aguascalientes serían destruidos. Nosotros no pedimos perdón al señor gobierno. Nosotros respondimos que podían hacerlo si querían y podían. Le reconocemos al señor gobierno que cuando los indios se morían de muerte inútil, nunca pidieron permiso y el señor gobierno quedó callado y cómplice de nuestra muerte. No pedimos permiso para morirnos. Tampoco pedimos permiso para vivirlos. Una nueva palabra está caminando en todos los que estamos aquí reunidos. Nosotros, los zapatistas, no hemos inventado nada nuevo. No inventamos la palabra. No inventamos la lucha, no inventamos la dignidad indígena. Ustedes han hablado siempre la palabra, siempre han luchado, siempre han sido dignos. Nosotros solo les recordamos a México y al mundo que los indígenas existimos y que no queríamos morir. Nuestra palabra fue nueva para los que habían perdido la memoria. Pero para ustedes no es nueva nuestra palabra porque de por sí caminaban desde más antiguos abuelos. Por eso queremos invitarlos a que el espíritu que viva en nuestros corazones y en nuestra palabra sea el del respeto y la tolerancia. Todos tenemos un enemigo común que se autodenomina gobierno, que es el que trata de asesinarnos. La religión que nos acusa de pecado mortal se llama neoliberalismo. Tenemos que resistir el paso de muerte que camina el poderoso. Pero también tenemos que construir otro mundo, y en este mundo nuevo debe de haber lugar para todos los pueblos y todas las lenguas. Ese es el pensamiento zapatista y es nuestra palabra. No podemos combatir al racismo que practica el poderoso con un espejo que presenta lo mismo, pero al revés. La misma sinrazón y la misma intolerancia, pero ahora en contra de los mestizos. No podemos combatir el racismo contra los indígenas practicando el racismo contra los mestizos. Somos indígenas. Hemos sufrido siglos de desprecio, de persecución, de olvido, de muerte. Muchas veces el verdugo ha tenido la piel clara, pero otras veces la muerte y la traición han tenido la piel morena. Y nuestra misma lengua, el camino bueno, también lleva la palabra de hombres y mujeres de piel clara y lengua diferente. En el mundo que queremos los zapatistas, caben todos los colores de piel, todas las lenguas y todos los caminos, rumbos, muchos caminos tiene el mundo bueno, y esos caminos hay respeto y dignidad. Hermanos, a nombre del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional,